Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business, l'info éco. Léo Dumas.
Bonjour à tous, Xi Jinping est à Paris. Le président chinois entame une visite d'État de 2 jours en France. Il sera reçu ce matin à l'Élysée par Emmanuel Macron en présence d'Ursula von der Leyen pour évoquer les différents commerciaux. Les deux Européens entendent prôner la réciprocité et l'équité dans ces relations. Pour l'économiste David Bavrez, il faut dresser 2 lignes rouges. Écoutez.
1. Nous ne sommes pas néo-lénino-marxistes comme vous. Et donc, chaque fois que vous venez avec un produit néo-lénino-marxiste, c'est-à-dire un produit qui a bénéficié
de
subventions et que vous vendez à perte, nous allons le taxer. Et la seconde ligne rouge, c'est que nous avons décidé, nous, Européens, de faire de l'Europe, ça nous coûte une fortune pendant 40 ans, 3-4% de PNB, de faire de l'Europe la première zone décarbonisée. Et donc, chaque fois que vous allez venir avec une voiture électrique qui a consommé 2 fois plus de CO2 pour la construire qu'une voiture européenne, nous allons vous taxer le CO2.
Xi Jinping et Emmanuel Macron discuteront ensuite en tête-à-tête cet après-midi pour parler des enjeux internationaux. Notamment, le président chinois assure vouloir œuvrer avec son homologue français à résoudre la crise en Ukraine. Et dans le même temps, Vladimir Poutine ordonne ce matin la tenue d'exercices nucléaires. Ils doivent avoir lieu dans un futur proche et impliquent des troupes positionnées près de l'Ukraine. Il s'agit de s'entraîner à la préparation et à l'utilisation d'armes nucléaires non stratégiques. C'est une réponse aux menaces des dirigeants occidentaux contre Moscou, fait savoir le ministère russe de la Défense. En France, l'activité du secteur privé renoue avec la croissance grâce aux services. C'est ce que montre l'enquête PMI du mois d'avril, publiée ce matin. L'indice composite s'établit à 51,3 contre 48,3 en mars. Et dans l'ensemble de la zone euro, l'activité des entreprises grimpe à son rythme le plus rapide depuis près d'un an. 800 000 ventes de voitures électriques en France dès 2027, voilà ce que visent le gouvernement et l'industrie automobile selon les termes d'un contrat de filière publié hier. Il s'agit de presque tripler les ventes en 4 ans. Ce plan stratégique doit être entériné ce matin par les deux parties. Atos a reçu 4 propositions financières pour son sauvetage, annonce du groupe dans un communiqué. Elles émanent respectivement de ses créanciers, de Winepoint, la société de David Layani, de EP Equity, le fonds contrôlé par Daniel Kretinsky. La 4e offre est celle de Bain Capital. Elle n'a pas été retenue par Atos, qui se donne jusqu'au 31 mai pour trancher. Et puis du mouvement dans l'organigramme chez Vinci, Pierre Enjolras est nommé directeur général opérationnel. Il est l'actuel président de Vinci Construction et il sera rattaché au PDG Xavier Huillard. Cette nomination constitue la première étape du plan de succession de ce dernier, dont le mandat à la direction générale prend fin l'année prochaine.
Merci beaucoup Léo.
Retrouvez BFM Business à la radio dans les grandes villes de France et partout dans le monde en live ou en podcast sur bfmbusiness.com.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
On s'occupe de vos finances personnelles tous les jours de 10h à midi sur BFM Business, à la radio, à la télé, sur le web. Bonjour à vous qui nous écoutez en podcast, peut-être à une autre heure du jour ou de la nuit dans un autre pays que la France. Au programme de l'heure à venir, l'immobilier dans une dizaine de minutes. On va parler leasing, leasing immobilier, inspiré évidemment du leasing automobile, pour faciliter l'accès à la propriété. C'est une idée, une location avec option d'achat. Le question-réponse du jour portera sur l'investissement dans un contexte d'incertitude économique mais aussi géopolitique. Souleymane Jean Galadima, le cofondateur de Sapiens, va venir vous dire comment profiter de la relative inertie des marchés non cotés pour se positionner. On rappellera aussi un petit peu de méthodologie, notamment comment laisser de côté l'émotionnel. On fera le point sur l'or en fin d'émission avec l'équipe du comptoir national de l'or. On va évoquer l'impact potentiel de l'élection américaine semaine sur le métal jaune. Au programme, il y a vous. Vous nous écrivez pendant le direct. L'adresse, c'est très simple, direct@bfmbusiness.fr ou sur LinkedIn. En message privé, je vous lis également. Nous alimentons l'antenne avec vos éventuelles questions et réactions qui peuvent enrichir notre direct. Pour les autres, elles viennent alimenter notre pompe à questions. Nous partons à Euronext rejoindre Aude Kersulek. On vous retrouve, Aude, avec notre CAC 40 en légère hausse depuis l'ouverture. On est toujours en dessous du seuil symbolique des 8000 points.
On a une vingtaine de points des 8000 points. C'est vrai qu'on continue sur notre petit rythme de hausse matinale. On est à plus 0,3%. C'est assez léger. Alors, c'est vrai qu'on fait quand même suite au rebond de vendredi où tout avait rechangé dans les esprits des investisseurs avec ce chiffre de l'emploi américain, les créations d'emplois et puis les hausses des salaires qui avaient été moins fortes qu'attendues. Du coup, on était reparti sur le scénario d'une baisse de taux. Alors, attendu plutôt autour de septembre-novembre, mais en tout cas les investisseurs y croyaient de nouveau. Voilà pourquoi on montait notamment assez bien du côté de la tech. On a le Nasdaq qui terminait à plus 2% et c'est pour ça qu'en tête de le CAC 40, on a notamment Téléperformance qui creuse la différence. On est à plus 4% Téléperformance, donc en hausse en tête du CAC 40. Alors il faut dire qu'on a eu aussi de bons résultats chez Téléperformance la semaine dernière qui sont encore salués et notamment un relèvement de perspectives. On est donc à 98,74 € et on est loin devant la deuxième valeur qui est AXA à plus 1,7% ou encore Thales. Après, c'est vrai que c'est plus dispersé au niveau sectoriel. En revanche, en baisse, on a toujours Société Générale qui perd 1,6%. Là, dans la lignée aussi de ce qui s'est passé vendredi, les résultats trimestriels et puis l'annonce que l'année allait être encore difficile sur le point de vue des marges d'intérêt net. C'est notamment ce qu'on regarde dans les banques. Société Générale qui a averti que ça allait rester compliqué, moins 1,5% après moins 5% vendredi. Puis on a une valeur qui baisse encore, c'est Stellantis. Et Stellantis, sur la semaine, on a quand même perdu 13%. Et là, on continue moins 0,4%. Donc une valeur qui a vraiment du mal à faire revenir les acheteurs. Et puis le luxe aussi tient à signaler du côté des perdants du jour, le rouge. Alors que pourtant, sur les taux obligataires, on s'était largement détendu la semaine dernière. On est passé à 4,50% pour le taux 10 ans américain, 2,9% pour le taux 10 ans français. Et puis d'ailleurs, c'est assez stable aussi sur le front du pétrole. $83,06 ce matin pour le Brent et l'euro-dollar qui reste stable aussi à $1,0768. Voilà, sur le SBF 120, donc autre marché technip, on est à plus 2%. C'est la plus forte 8% pardon pour Maurel & Prom, c'est la plus forte hausse du SBF 120 et la plus forte baisse, on en parle tout de suite, mais c'est Atos à moins 3,8%.
Et oui, Atos qui a reçu 4 propositions pour sa restructuration. C'est votre histoire à suivre.
Tout pour investir sur BFM Business.
4 propositions, mais 3 seulement retenues. Racontez-nous, Aude, où en est-on du dossier Atos ?
Déjà, il faut rappeler que Atos, c'est 4,8 milliards d'euros de dettes. Et l'objectif de l'entreprise, en lançant cette restructuration, c'est quand même d'en effacer une bonne partie. Alors, à un moment, c'était la moitié. Maintenant, c'est même un petit peu plus que la moitié. Donc, soit quelqu'un, soit une entreprise la reprend, notamment les créanciers, et la transforme en capital. Et puis, Atos, c'est aussi de l'argent frais pour continuer d'opérer. Donc, dès liquidité, la deadline de ces propositions, c'était vendredi 3 mai. 4 offres donc d'apport de liquidité. Il y en a une qui a déjà été rejetée, c'est celle de Bain Capital, qui est une société de private equity, pas confondre avec Bain, la société, le cabinet de conseil. Mais en tout cas, elle ne s'était pas vue comme une vraie offre, selon des sources aux Échos. C'était plutôt une proposition de reprise sans vrai prix. Donc, elle a été mise de côté. Les offres qui restent, celle du début, celle de finalement David Layani, américain qui veut depuis longtemps reprendre Atos, fondateur de OnePoint, actionnaire déjà de Atos à plus de 10%, qui veut en faire un One Atos, hein, comme il le nomme. C'est de Daniel Kretinsky, l'homme d'affaires tchèque, qui commence à avoir une vraie place maintenant dans le monde des affaires français et qui propose, lui, d'effacer 4 milliards d'euros de dettes. Donc voilà pourquoi sa proposition est alléchante et qu'il est vu comme un repreneur sérieux. Et puis, il y a la troisième dernière proposition, celle des créanciers. Alors, les créanciers obligataires et bancaires, ce sont à la fois des sociétés de gestion et puis des banques qui se sont parlé et qui ont décidé de faire une offre de reprise, en tout cas de la dette d'Atos. Alors, elle est un petit peu moins élevée, cette proposition de reprise, que celle de Daniel Kretinsky. On est à 2,4 milliards d'euros, mais il pourrait y avoir une entente, hein, des créanciers avec un des deux repreneurs, et finalement on se dirige vers un duel entre Daniel Kretinsky et David Layani. Donc une solution étrangère, hein, Daniel Kretinsky, le Tchèque, une Française, David Layani, sachant que l'État, ce ne serait pas un problème même si c'était repris par un individu étranger, parce que l'État se positionne pour la reprise des activités sensibles d'Atos. Donc en tout cas, pour les actionnaires, ça signifie que de toute façon, les créanciers vont convertir leurs dettes en actions. Donc il y aura beaucoup plus d'actions en circulation. Celles-ci vaudront beaucoup moins et il y aura cette fameuse dilution, hein, qu'on attend. Le titre qui est pour le moment à 2,09€, qui devrait encore redescendre malheureusement. En tout cas, on sera fixé le 31 mai, hein, sur l'offre de reprise qui sera choisie. Ce sera donc sûrement un mix de plusieurs de ces offres. Et donc le 31 mai, que le conseil d'administration d'Atos donnera sa décision.
Merci Aude pour ce résumé du dossier Atos, le point sur les propositions reçues et celles retenues. On continuera à mon avis à parler de ce dossier dans les prochains jours, peut-être avec vous. Merci Aude. L'histoire financière d'Aude Karsulek, à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application d'ici quelques minutes. Il est l'heure de parler immobilier, comme tous les jours, en Tout pour Investir. On va s'intéresser au concept de leasing immobilier. A tout de suite.
Tout pour Investir, la place de l'immo.
Nous allons parler de leasing, non pas de leasing automobile, mais de leasing immobilier, car oui, ça existe. Bonjour Marie Cœur de Roy.
Bonjour Lorraine.
Nous accueillons sur ce plateau Clara Terrasse. Bonjour Clara.
Bonjour.
Vous êtes aux manettes, cofondatrice de Sésame. Vous avez la formule magique pour ceux et celles qui voudraient accéder à l'immobilier, à la propriété. Voilà, d'une manière peut-être différente. Ça s'appelle le leasing immobilier. Vous nous racontez le concept ?
Tout à fait. Alors, le leasing immobilier, c'est une solution pour devenir propriétaire de sa résidence principale. C'est une solution qui s'adresse à des profils qui sont solvables, mais qui sont prochainement finançables. Et ça va permettre, en fait, d'emménager dès maintenant dans le bien qu'on souhaite acheter et d'avoir la possibilité de différer, en fait, le moment où on va faire sa demande de crédit immobilier. Et donc, on a le temps de se différer pour améliorer son profil emprunteur. C'est somme toute donc une location avec option d'achat et on couple ça avec un accompagnement sur mesure. On va aller travailler différents leviers comme la constitution d'une épargne mensuelle qui va servir d'apport pour acheter, un conseil, un accompagnement dans le choix du bien objet du leasing et bien entendu aussi des conseils sur la constitution en fait du dossier pour la demande de crédit.
Alors avant de rentrer dans le détail, moi je voudrais revenir sur ce que vous avez dit dès le démarrage. Vous avez dit c'est des gens qui sont solvables mais pas finançables.
Oui.
Ça veut dire quoi concrètement? Est-ce que ça veut dire que toutes les cases qui sont ouvertes auprès de la banque, c'est-à-dire que mon boulot, tout va bien, mon ancienneté professionnelle, mon niveau de salaire, etc. Sauf que j'ai pas l'épargne qui va avec et donc ce fameux apport qu'il va falloir que je constitue. Mmh. Ou il peut y avoir d'autres cases dans le rouge. À quel moment vous considérez que le dossier peut être mûr incessamment sous peu?
Ouais. Donc effectivement, le manque d'apport, c'est un élément, c'est celui qui revient, je pense, le plus souvent. Mais il va avoir aussi, par exemple, les profils type travailleur indépendant, auto-entrepreneur, créateur d'entreprise, même profession libérale, qui n'ont pas encore assez d'ancienneté professionnelle ou dans leur activité, et qui donc ne pourront pas tout de suite prétendre à un crédit. Il y a aussi d'autres exemples, notamment, par exemple, des aspirants propriétaires qui auraient un petit crédit conso qui reste à rembourser, avec une somme qui n'est pas nécessairement très importante, mais qui vient bloquer leur endettement.
Sur un dossier, oui. Ouais. Mais donc vous faites ce boulot de la banque. En gros, c'est forcément des gens qui se sont pris un nom de la banque, mais vous arrivez à percevoir que c'est peut-être non aujourd'hui, mais à moyen-long terme, ou à court-moyen terme plutôt, ouais. Ça sera oui.
Exactement. On va en fait pouvoir créer une trajectoire d'accession à la propriété et... on va pouvoir tracer cette trajectoire et voir à quel moment la personne, dans des conditions qui restent celles qu'elles sont finalement aujourd'hui, donc on ne mise pas sur une promotion, sur un héritage, ni sur gagner à la loto.
c'est dommage.
Et en fait, on va pouvoir voir si telle personne, pour le montant de son projet, va être éligible à un crédit.
Justement, il y a des aléas quand même que vous ne pouvez pas maîtriser. Vous parliez du loto, bon, j'entends bien, c'est des choses que vous ne pouvez pas prendre en compte. Mais le problème, c'est qu'avec de la location, avec option d'achat, quelque part, je me projette dans un bien qui ne me conviendra peut-être plus quand je serai en capacité de véritablement l'acheter. Ça se passe comment ? À quel moment je suis contrainte ou pas d'acheter le bien sur lequel je me suis positionnée en tant que locataire, avec la possibilité de l'acheter à moyen long terme?
En fait, on travaille avec des aspirants propriétaires qui sont vraiment dans une démarche d'accession à la propriété. Donc, ce n'est pas des locataires qui se disent « Oh, peut-être que ça m'intéresserait un jour ». Ce sont des personnes qui ont, pour la plupart, déjà entamé leur projet d'accession, qui ont parfois identifié aussi le bien dont ils souhaitent devenir propriétaires parce qu'il correspond à leur situation de vie, à leurs besoins et à leur projection personnelle. Et c'est vraiment en entamant le projet qu'ils rencontrent ces frais-là. Donc, il y a un engagement qui est très fort...
Au démarrage,
au niveau du bien qui est choisi. Et dans le cadre aussi du leasing, il va avoir un engagement aussi financier de la part du futur acheteur qui va être demandé. Donc, il va avoir la période locative, si on veut, pour améliorer son profil.
Elle est déterminée en avant, cette période ?
Oui, la durée maximale. Alors, c'est assez variable. Habituellement, on est sur du maximum 24 mois, mais on a des levées d'options qui interviennent vraiment très, très tôt. En fait, dès que la personne est prête...
En capacité de pouvoir passer à l'acte.
Exactement. Elle peut lever l'option donc, et devenir propriétaire du bien.
Et alors, du coup, moi, ma question, c'est qu'est-ce que je fais ? C'est ce que je disais. Qu'est-ce que je fais si, pas de bol ou bol, je sais pas, ça dépend de quel côté on se place, je fais un autre enfant, par exemple. Et donc, j'ai besoin de plus grand. Ou alors, à l'inverse, finalement, je me sépare. Et donc, en fait, j'ai besoin de plus petit, donc ce bien-là ne m'intéresse plus. Oui. Je peux renoncer à cette option d'achat.
Oui. Marie, vous avez peur d'être coincée dans un bien.
Exactement.
Oui, donc on peut, ça reste une option d'achat. Donc, on peut effectivement décider de ne pas l'exercer, de ne pas la lever. Et à ce moment-là, on va donc déménager du bien qu'on occupait. On va récupérer l'épargne qui aura été constituée au fil de l'occupation et on va se diriger vers un autre bien qui correspondra mieux au projet de vie.
Comment vous constituez cette épargne ? C'est-à-dire que moi, locataire, pendant maximum 24 mois, je verse un loyer plus quelque chose supplémentaire.
C'est ça.
À quoi équivaut le loyer ? Est-ce que c'est celui du marché ? Est-ce que c'est un peu plus élevé, un peu plus faible ? C'est quoi concrètement que ça va me coûter tous les mois en réalité ?
Donc, au niveau de la part de loyer, on est effectivement peu ou prou sur un loyer de marché. Et au niveau de la part d'épargne, dite acquisitive, en fait, elle va être déterminée par rapport
épargne au... acquisitive. Alors moi, je vais vous décortiquer cette expression, parce qu'on parle vraiment d'éducation financière, là.
Oui, tout à fait. En fait, c'est d'intégrer l'épargne mensuelle dans le versement de la redevance qui est payée chaque mois pour que l'épargne devienne, j'ai envie de dire, automatique dans le quotidien du futur acheteur. Et mois après mois, cette épargne, elle est mise de côté sur un compte séquestre au nom de cet acheteur. Et c'est ce qui va lui servir à faire l'acquisition du bien. Donc d'où le terme par acquisitif.
Mais bon an, mal an, est-ce que c'est lourd tout ça ? Entre mon loyer de marché plus cette épargne acquisitive, ce qui va me servir d'apport potentiel au moment où je lève l'option d'achat, est-ce qu'au final, est-ce que c'est pas un peu rude sur mensuellement le coût de mon opération ?
Alors l'idée, c'est de pouvoir bien entendu regarder le reste à vivre, le taux d'effort qui va être fait chaque mois, parce qu'il faut que cette situation elle soit faisable pour notre futur acheteur.
Donc vous êtes sur de l'épargne forcée, en fait.
Oui, c'est une épargne qui est programmée, qui est tous les mois.
Et le fait qu'elle soit destinée à de l'IMO, ça passe mieux ? Dans notre état d'esprit français ?
Oui, et surtout, ça rentre dans le cadre d'un projet de vie. Pour beaucoup de personnes, devenir propriétaire de sa résidence principale, c'est un, sinon le plus gros projet qu'ils vont
On a parlé des profils. Alors, vous avez évoqué, Marie, le profil qui n'a pas beaucoup d'apport. On a parlé des professions libérales, des indépendants, dont on ne parle pas assez, mais qui sont quand même la force vive de notre pays. Il n'y a pas que des salariés. Mais on peut aussi penser
aux gens qui sont mal éduqués financièrement. Et c'est-à-dire que, par exemple, des gens qui gagnent bien leur vie ou moyennement leur vie, qui pourraient tout à fait accéder,
qui brûlent
n'ont pas les clés de la gestion financière basique qui leur permettrait d'acquérir leurs biens rapidement.
Complètement. C'est vrai que la culture en fait de l'épargne, elle va être essentielle pour réaliser n'importe quel projet, notamment celui de devenir propriétaire. Et c'est en ce sens que notre accompagnement qu'on va apporter va pouvoir éduquer sur l'importance de l'épargne, comment la programmer, mais aussi sur le rôle d'être propriétaire. Parce que on est parfois, quand on n'a jamais été propriétaire, qu'on a vécu une grande partie de notre vie en étant locataire, c'est pas tout à fait les mêmes rôles, les mêmes responsabilités.
Bon, Clara, c'est magique, hein. Mais en fait, le problème, c'est qu'il nous faut de l'offre. Parce que là, on s'est mis dans la peau de ceux qui veulent devenir propriétaires, ceux qui veulent acheter. Mais les vendeurs, ils ont envie d'attendre là, ils ont envie de se dire bon bah ok, je te prends en termes de locataire pendant quelques temps et puis on verra pour plus tard. Moi, si je devais être en position où je dois vendre, parfois je suis même pressée par le temps pour vendre. Comment vous arrivez à les convaincre? Quelle est cette offre de leasing en fait? On a parlé de la demande, elle est là, j'imagine bien, mais l'offre elle est où?
Ouais, donc effectivement on a beaucoup de demandes de la part d'aspirants propriétaires. Donc on a plus de 10 000 demandes de la part de familles qui veulent devenir propriétaires de leur.
Votre boîte, votre entreprise a 2 ans.
Ouais. Presque 2 ans. Et donc, on a près de 10 000 demandes de familles qui veulent devenir propriétaires par le biais du leasing. En revanche, on a effectivement un manque d'offres de logements disponibles.
Concrètement, vous en avez combien en face de ces 10 000?
On a à peu près une petite centaine de logements qui ont été soumis par des vendeurs.
Là, ça devient presque les statistiques du loto.
Ouais. Et donc, en ce sens, eh bien, effectivement, on va travailler avec des vendeurs qui soient professionnels, type société de gestion, bailleur, foncière, même promoteur, ou des vendeurs particuliers, pour pouvoir créer cette offre de logement disponible. Et en fait, il y a plusieurs avantages. Vous demandez comment est-ce qu'on convainc finalement ces vendeurs-là de passer par la vente en leasing. Il y a plusieurs avantages, surtout dans le contexte actuel où on a des délais de vente qui s'allongent beaucoup. Il y a souvent, j'ai envie de dire, une perte de valeur qui est associée à ce délai assez long. Et on parle même pas des coûts en fait d'entretien ou de conservation d'un bien qui est pourtant vide. Taxe foncière, charge de copropriété.
Et pour peu qu'on ait un prêt relais aussi.
Et oui. Donc l'avantage en fait, les avantages de la vente en leasing pour un vendeur, ça va être notamment de pouvoir fixer son prix de vente et son horizon maximal de vente.
Parce qu'on le fixe au démarrage et il ne bouge pas.
Oui, il ne bouge pas, donc ce sera maximum, par exemple, 12 mois ou 24 mois selon la durée qui sera déterminée.
Ouais.
Tous les mois, le vendeur va donc recevoir un loyer garanti qui n'est pas déduit du prix de vente. Il ne paiera plus de charges parce que l'occupant, le futur acheteur qui occupe le bien, c'est lui qui va prendre en charge de la taxe foncière, les charges de copropriété si c'est une copropriété, tout ce qui va être menus travaux, entretien du bien, eau,
etc. D'autant que son but ultime à lui, c'est de l'acheter, donc quelque part, il va faire forcément de l'effort pour justement entretenir le bien.
Absolument, il s'y projette comme étant sa résidence principale, donc il fait beaucoup plus attention. Ensuite, il y a un autre élément qui est assez intéressant pour ceux qui vendent leur résidence principale. En fait, la vente en leasing permet de conserver la fiscalité de la résidence principale quand on vend cette dernière. Donc, il n'y aura pas d'impôt à payer sur la plus-value quand on vend sa résidence principale en leasing.
Et comment on est taxé sur les loyers qu'on gagne?
Ça va dépendre. C'est un revenu locatif. Et ça va dépendre de
notre tranche marginale d'impôt.
Bon, alors, exactement. Une question quand même. Et vous, comment vous gagnez l'argent? C'est quoi le business model de Sedam?
Donc, nous, on va prendre un frais de mise en leasing, donc côté vendeur, qui est de 1% du prix du bien. Ce pourcent, il est payé au moment où l'acheteur il est sélectionné, donc au moment où il va emménager dans le bien. Sedam va aussi prélever une gestion du leasing sur les loyers qui vont être versés donc tout au long
de la location. Ouais.
Exactement. Et on va se rémunérer sur une partie aussi de l'option d'achat, au moment où l'acheteur va effectivement devenir propriétaire. Et donc en ce sens, on a un alignement d'intérêt complet avec l'acheteur dans son projet de devenir propriétaire.
J'ai quand même une question pour revenir sur l'offre. Ouais. Comment ça se passe du coup? Moi, je suis intéressée. Mon rêve, c'est de devenir propriétaire. Tous ceux qui nous écoutent et tout, qui nous regardent depuis 10 ans le savent. Je le sais.
Toujours
ceux qui nous regardent depuis 3 mois. Tout le monde est au courant.
comment je fais? Je dois aller chasser un bien qui m'intéresse et je vous l'apporte. Je vous dis, voilà, j'ai trouvé l'appartement, la maison de mes rêves et c'est vous qui allez aller négocier avec le vendeur en disant, je vous assure, elle est super, vous lui louez pendant un ou deux ans et ça va le faire, machin. C'est moi qui négocie. Comment ça se passe pour cette mise en relation, très concrètement?
Alors, soit des vendeurs vont venir à Sésame et donc avec le désir de vendre leur bien en leasing et dans quel cas, nous, on va pouvoir proposer à des accédants qui sont déjà inscrits dans notre base. Ou alors, effectivement, comme vous disiez, le futur propriétaire va pouvoir aller à la recherche du bien qui correspond à ses besoins dans le cadre du budget qui aura été déterminé pour son projet. Et c'est Sésame, du coup, qui mettra en place le leasing avec le vendeur.
Est-ce qu'il y a un côté testé avant d'acheter? C'est-à-dire, est-ce que c'est nécessairement ces loueurs avec option d'achat, est-ce que c'est nécessairement des gens qui peinent à obtenir le crédit immobilier ou est-ce que ça peut pas être des gens qui ont juste envie de tester le bien, la copro, le voisinage, la proximité avec les commerces, les écoles, le travail, etc.? Est-ce que vous avez de ces profils-là aussi?
C'est vraiment des personnes qui veulent devenir propriétaires et donc qui ont choisi un bien, qui s'y projettent. C'est un processus aussi de choisir un bien, donc qui correspond à la fois géographiquement au lieu qu'on veut, en termes de caractéristiques du bien, par exemple si on a un, deux enfants ou pas d'enfants, où est-ce qu'on est proche du travail, etc. Donc c'est vraiment des critères qui sont mûrement réfléchis, qui prennent du temps à choisir. On n'a pas de curieux qui vont vouloir tester avant d'acheter, même si oui, concrètement, on a l'opportunité d'y vivre avant de demander son crédit et donc de passer à l'acte d'achat. Mais le comportement n'est pas celui-là.
Il n'y a pas de... Comment vous appelez ça? Le porn immobilier?
Real estate porn. Mais alors, normalement, c'est plus sur l'immo de prestige, mais c'est juste, hein, Lorraine. Effectivement, on pourrait avoir cette espèce de petite curiosité pour aller pénétrer dans des lieux qu'on ne pourrait pas s'offrir et dont on pourrait être locataire ponctuellement.
Oui, après, on ne pourra pas accéder à un château.
Vous n'avez pas de château en leasing?
Pas pour le moment.
Dommage.
Merci beaucoup, Clara Terraz, pour cette présentation du concept de leasing immobilier. Vous l'avez entendu, qui n'a globalement rien à voir avec le leasing automobile, à part cette capacité à acquérir à la fin. C'est peut-être une solution à un marché et à des profils intéressants, cette solution intéressante à décortiquer avec vous, chère Marie Cœur de Roi. On se retrouve demain. D'ailleurs, je vous informe que nous serons en direct toute la semaine, car oui, l'intégralité de la France, ou presque, va lever le pied. Mais nous, les marchés sont ouverts, donc tout pour investir aussi reste ouvert. Donc nous ferons de l'immobilier tous les jours, y compris vendredi, en équipe réunie pour répondre à vos questions et couvrir l'actualité du secteur immobilier et du logement. Vous restez avec nous, chers auditeurs, auditrices. Nous allons maintenant vous aider à naviguer des temps incertains, des temps économiques et géopolitiques complexes. Comment se comporter en tant qu'investisseur dans cette incertitude, au milieu de cette incertitude? Quelques éléments de réponse juste après la pub. À tout de suite.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
On vous aide à naviguer des temps incertains, comme on dit un petit peu en franglais, parce que entre l'incertitude économique et le contexte géopolitique plus que compliqué, c'est important de vous donner des bases ou de vous les rappeler. C'est ce qu'on va faire avec vous, Souleymane Jean Galadima. Bonjour.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes cofondateur de Sapiens. Avec vous, on va parler de comment timer le marché action. Bah non, c'est impossible de timer le marché action. Racontez-nous un peu.
C'est en effet un doux mirage que d'imaginer timer le marché action. Surtout le marché action côté, on ressort toujours la fameuse étude de Fidelity qui montre qu'entre 1980 et 2018, si vous étiez absent des 5 meilleures journées, vous passiez à côté de 35% de la performance. Voilà. Donc ceci étant dit, on peut néanmoins nuancer cette approche avec les marchés non cotés qui, eux, font face à une inertie beaucoup plus forte, ont une asymétrie d'information beaucoup plus grande et donc présentent cette possibilité de jouer les cycles. C'est le cas du private equity avec, en ce qui concerne Sapiens, une vraie conviction sur le secondaire, donc le marché de l'occasion du private equity. C'est le cas de la dette privée qui profite aujourd'hui de taux d'intérêt encore élevés pour la structuration notamment des taux de dette mezzanine. Et c'est aussi le cas notamment de l'immobilier qui potentiellement atteint un point bas. Et on voit plein de solutions d'investissement se lancer, même en SCPI, avec notamment une dernière en date qui s'appelle Osmo Energy.
Oui, vous le rappelez, le marché immobilier qui potentiellement rebondit. Tout est dans le potentiellement. On va essayer d'être très pédagogique dans cette séquence avec vous. Vous partagez votre expertise. On rappelle que vous êtes à la tête d'un family office. L'idée, c'est de continuer à investir, même si les temps sont troubles. Même si, effectivement, le contexte économique est compliqué. Même si le contexte géopolitique est lourd, inquiétant. Il faut quand même continuer à investir, c'est ce que vous nous dites, c'est ça l'hygiène financière de base.
C'est l'hygiène financière, puisqu'on se rend compte que les crises que l'on a pu vivre ces dernières années, que ce soit celle du Covid, où finalement après 13 mois on avait retrouvé notre niveau du CAC 40 GEAD anti-Covid, que ce soit même la guerre en Ukraine, où finalement début de l'invasion, février 2022, en décembre 2022, on avait retrouvé notre cours. Donc ce sont des épiphénomènes, il s'agit d'avoir une vision sur le temps long, de pouvoir capter cette tendance, et pour pouvoir le faire, il est nécessaire d'aider les investisseurs à pouvoir se projeter. Donc c'est là où on en vient un peu à de la méthodologie, à essayer de mettre de côté ses émotions et de déterminer quelle va être ma poche de sécurité, 100% liquide, 100% sécurisé. Une fois qu'on a fait ça, on peut se concentrer sur sa poche projet moyen terme, 5-6 ans, toujours 100% liquide mais avec une volatilité un peu plus faible. Et une fois qu'on a fait ces devoirs, ce travail de ces deux premières poches, on peut se projeter sur le temps long, plutôt à horizon clairement 10 ans, pour aller chercher un maximum de performance, notamment sur le marché actions. Néanmoins, on sait que le marché est aujourd'hui très volatile, vous l'avez évoqué, avec un certain nombre de risques géopolitiques, macroéconomiques, voire climatiques. Mm-hmm. Et donc l'enjeu, c'est d'aller chercher une forme de diversification, le portefeuille qui serait le plus adapté pour avoir une forme de résilience. Et donc là, on essaie aussi de ménager les attentes des investisseurs et éviter de les faire rêver avec des TRI particulièrement élevés, puisque notre enjeu, c'est au contraire d'avoir un TRI, donc un taux de rentabilité interne, le plus stable possible. Et c'est vrai que si vous êtes sur un TRI de 8-9% annualisé, vous doublez quasiment votre capital en moins de 10 ans. Et donc c'est là où on va nous utiliser les travaux de recherche, notamment ce qu'on appelle des grands investisseurs institutionnels américains, les endowments, que ce soit les universités, les fonds de pension. Et aujourd'hui, elles sont très exposées aux actifs à risque, que ce soit à 40% en actions, en 20% en private equity, ce qui est d'ailleurs dommage parce que les institutionnels français, eux, sont plutôt à 2-3%. Bon. Ensuite, on a 10% d'actifs réels, infrastructure, immobilier, on a 10% d'obligataires et 20% d'actifs alternatifs, avec ce petit sujet, notamment de la crypto-monnaie, en ces périodes aussi d'incertitude, qui peuvent avoir un intérêt en termes de diversification.
Dans cette logique de diversification, voilà, on rappelle la méthodologie, pour laisser l'émotionnel de côté. Vous nous parlez des poches d'investissement, la nécessité d'investir régulièrement et puis de diversifier. Il y a quelques tendances qui vous occupent, que vous surveillez de près et qui peuvent nous aider à repenser notre allocation. Dites-nous ce que vous surveillez de particulièrement attentivement.
En ce moment, ce que nous surveillons de près, on l'a évoqué, l'immobilier, les foncières côté immobilière, vous en avez beaucoup parlé à l'antenne, ont été massacrées. Et donc, on voit aujourd'hui, avec une possible baisse des taux et une reprise du marché immobilier en potentiel, un vrai point d'entrée. On regarde aussi très près, notamment l'univers bancaire. Là encore, on n'essaie pas de challenger les investisseurs pour faire un all-in sur une typologie de classe active. Il s'agit plutôt d'une sur ou sous-pondération d'une classe active dans un portefeuille équilibré. Je le rappelle parce que c'est important pour les investisseurs. Et donc là, l'univers bancaire est intéressant puisque on a effectivement là aussi un travail de value à réaliser. On a sur l'Eurostock Bank un price-earning ratio qui est de l'ordre de 7-8, donc relativement accessible. Et des banques qui vont potentiellement connaître une reprise du crédit, qui ont ce qu'on appelle aussi un retour sur investissement des fonds propres particulièrement attractif par rapport aux 10 dernières années que l'on a vécu. Donc un potentiel là aussi, que ce soit en direct ou via des produits structurés, un intérêt à travailler ce sous-jacent.
Foncière côté banque. Et peut-être si on parlait des tendances actuelles qui drivent les marchés, qu'est-ce que vous diriez, peut-être si on fait un top 3 des tendances que vous anticipez, qui vont continuer à faire vivre les marchés au pluriel?
Alors, dans les tendances, on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, ça reste une tendance majeure. Attention néanmoins aux questions, en effet, de valorisation, même si...
Parler de points d'entrée, et là, est-ce qu'il y a des points d'entrée?
Alors, c'est toujours la difficulté, nos investisseurs nous challenge aussi habituellement. En période de croissance, on est toujours à un plus haut historique. Donc, on reste toujours sur la logique, il faut rester investir, il faut être exposé à ces classes d'actifs, avec toujours plutôt la volonté d'investir dans les pioches plutôt que dans les mines d'or. Première tendance majeure. La deuxième, elle est aussi sur le sujet, effectivement, tendance très forte, très long terme, du vieillissement de la population, de la santé. Et là, vous avez, que ce soit d'ailleurs en côté ou en non-côté, de très beaux acteurs. En ce moment, Sapiens regarde de très près une société de gestion de portefeuille enfin française qui s'appelle Archimède, qui est un des spécialistes sur notamment la medtech et qui surfe effectivement sur cette tendance, sur cette augmentation des dépenses liées à la santé. Et enfin, vous avez un sujet qui nous est cher côté Sapiens, qui est celui de l'infrastructure, qui est une vraie tendance, tendance de fond, notamment à la fois sur les problématiques de transition énergétique, mais également sur les problématiques de transport, puisque que ce soit dans les pays développés où on a un vrai sujet de transition énergétique, ou les pays en voie de développement où de nombreuses infrastructures nécessitent d'être construites, vous avez ici sur le temps long une capacité de capter sur un actif où finalement le couple risque-rentabilité est très intéressant, une vraie opportunité de marché. Donc effectivement, IA, santé et infrastructure sont nous des tendances que nous suivons avec beaucoup d'attention.
On est en France, on se parle, on est en mai 2024, on l'entend, ces tendances, elles sont internationales. Il n'y a pas une tendance française ou spécifiquement européenne à jouer dans un contexte de monde globalisé, de monde hyper connecté. Est-ce qu'il y aurait des tendances à suivre particulièrement quand on est investisseur français ou européen?
Alors, là encore...
Est-ce que ça a un sens de se penser à l'intérieur d'une nation ou d'un périmètre géographique précis?
On considère qu'il s'agit d'être très diversifié d'un point de vue géographique. La Chine annonce 5% de croissance, on ne s'y attendait pas forcément, donc on se rend compte que, là encore, il faut être vigilant à ne pas être surpondéré
sur une géographie. On ne s'attendait pas non plus à une croissance négative venant des chiffres officiels chinois.
Naturellement. On se donnera rendez-vous 31 décembre 2024. Mais pour, effectivement, le segment européen, il existe effectivement de vrais sujets. On regarde avec beaucoup d'attention, notamment le secteur de la cybersécurité, puisqu'on a de vrais champions européens, on a une vraie expertise. Et ce qui arrive, heureusement pour des fois certains fonds de private equity, c'est que ces gros champions bénéficient ensuite de stratégies de consolidation, que ce soit d'acteurs américains ou que ce soit d'acteurs aussi israéliens qui sont effectivement très en pointe sur ces sujets. Et donc, il existe, en se pensant européen, une possibilité de se positionner sur ce sujet-là. Vous avez aussi l'Europe de la défense qui, on l'espère, vu l'actualité, devrait redémarrer et donc avec un besoin aussi d'investissement. Donc, oui, il peut être intéressant d'un point de vue patriotique de s'intéresser à ces sujets tout en gardant quand même une exposition sur d'autres géographies.
Il y a ce proverbe que nous avons décortiqué dans une autre partie de cette émission avec Julien Ebenzal qui est le suivant: sell in May and go away. Pour les investisseurs long terme que nous essayons d'être avec vous, qu'est-ce que cela peut signifier?
Alors, le sujet avec cette approche effectivement d'investissement long terme, je la résumerai déjà aussi avec une autre citation que j'aime bien, qui est celle de Benjamin Franklin, qui dit que l'investissement qui génère le plus d'intérêt, c'est celui dans la connaissance. Et donc, dans tout ça, et même si on invite les investisseurs à être peut-être un peu disciplinés et de pas laisser passer de l'émotion, c'est de continuer en fait à s'enseigner, à se former, au travers d'ailleurs de votre émission, sur effectivement ces grandes tendances. Et donc, sur le long terme, il est clair qu'aujourd'hui, il existe encore des moteurs de croissance particulièrement forts, que ce soit en Europe ou que ce soit effectivement outre-Atlantique, il s'agit de les capter. Et donc on invite nous nos investisseurs à se projeter plutôt sur un horizon à 10 ans, notamment sur le marché actions, pour aller capter un maximum de performance, en étant quand même vigilant, on l'a parlé, au niveau des valorisations, et donc à ne pas hésiter à utiliser aussi notamment le non-coté qui est clairement beaucoup moins impacté par des facteurs exogènes comme peut l'être le marché actions.
Et oui, parce que ce mois de mai 2024, il est, on le rappelle, vous le savez, évidemment, il cristallise beaucoup d'incertitudes économiques et géopolitiques. Donc, c'était pour ça que je voulais remettre ce contexte, cet adage dans le contexte.
Les élections européennes également qui arrivent prochainement, qui auront potentiellement un impact aussi sur la politique économique européenne.
Un mot pour conclure, Souleymane Jean, sur justement, vous en touchez ça et là, un mot depuis le début de cette interview, l'inertie relative des marchés non cotés est un terrain de jeu que vous suggérez.
On le suggère premièrement parce que vous avez une prime à l'illiquidité. C'est-à-dire que vous avez une capacité en tant que gérant de fonds du private equity de pouvoir bénéficier de cette prime d'illiquidité parce que pendant 8 ans, le temps qu'une société puisse grandir, vous ne pouvez pas vendre. Cette impossibilité de vendre est aussi, je trouve, un moyen de protéger l'investisseur puisqu'effectivement, il est embarqué, il a fait confiance dans un gérant, dans une équipe de gestion et donc il devra attendre et profiter peut-être d'une rotation de cycle économique pour pouvoir céder cette société. Et enfin, vous avez une asymétrie d'information qui est encore énorme dans l'environnement du non-coté, ce qui n'est pas le cas du côté. C'est pour ça que sur le côté, nous, on fait plutôt le pari sur le marché actions plutôt des ETF, des trackers, puisqu'il y a effectivement beaucoup moins d'asymétrie d'information. Sur le marché du non-coté, il y a un vrai travail de création de valeur des gérants qui vont identifier, challenger les gérants, les équipes de direction, challenger les valorisations pour entrer dans les meilleurs niveaux et les accompagner sur de très belles croissances.
Voilà, ça veut dire qu'on s'intéresse, ou en tout cas chez vous, chez Chapier, on se vous intéressez à la dette, à l'immobilier. Et on aurait pu parler un petit peu de private equity secondaire.
Tout à fait.
On en parle de plus en plus dans cette émission, oui, mais j'ai l'impression même dans les médias un peu plus mainstream, si je puis dire, financiers, voilà, ce terme de PE secondaire, on en entend plus parler. Et là aussi, carte à jouer.
Carte à jouer, parce que vous avez toujours une situation qui est très calme sur le marché des transactions, que ce soit des introductions en bourse, que ce soit des opérations de M&A. Et donc, mécaniquement, une grande difficulté des gérants de fonds de private equity à liquider leurs positions, à rendre l'argent à leurs investisseurs et donc à collecter pour leur nouveau millésime. Résultat, pour pouvoir sortir un peu de cette torpeur et pour créer de la liquidité, elles font appel à des fonds secondaires qui, eux, vont acheter sur le marché de l'occasion, soit directement au niveau des fonds, des prises de participation, soit directement au niveau des entreprises financées, des positions avec des niveaux de décote qui peuvent être de 20 à 30% inférieurs au prix effectivement classique du marché et donc un bon point d'entrée.
Tiens, ce marché du private equity secondaire, vous pourrez venir nous en parler la prochaine fois que vous viendrez.
Avec grand plaisir. On a d'ailleurs de très beaux gérants, même en France, sur ce sujet.
Voilà, c'est bien à saluer. Merci beaucoup, Souleymane Jean-Galadima, cofondateur de Sapiens, avec nous au décryptage. Contexte économique et géopolitique complexe, oui, mais néanmoins des clés d'investissement. On a parlé long terme, on a parlé inertie des marchés non cotés, on a parlé asymétrie d'information, autant de features, autant d'attributs qui peuvent être intéressants pour vous, investisseurs particuliers. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. On continue à s'occuper de vos finances personnelles. On finit l'émission en parlant d'or, parce que dans le contexte économique et géopolitique, l'or est plus que jamais un thermomètre intéressant. A tout de suite.
Tout pour investir. Investir autrement.
Et le point sur l'or. Avec vous, Laurent Schwartz, bonjour.
Bonjour, Lorraine.
Vous êtes président du comptoir national de l'or. On fait le point avec vous mensuellement sur ce que fait le métal jaune. Alors, on va faire d'abord le point sur les cours de l'or. Et puis, on va comparer un peu les performances avec le marché actions. Et puis, on va réfléchir un peu plus loin. On va se poser la question de l'impact de l'élection américaine.
Alors, le cours de l'or.
Déjà en dire. Où est l'or ?
Le cours de l'or. Le cours de l'or cote aujourd'hui 2300 euros l'once. C'est 2300 dollars l'once. C'est 2150 euros l'once. À titre de comparaison, en kilo, ça fait 69 300 euros le kilo. C'est un niveau qui reste très élevé, mais en retrait par rapport au niveau enregistré au plus fort de la crise entre Israël et l'Iran. Nous avions dépassé à cette époque les 73 000 euros le kilo. Ce sont des niveaux jamais vus. Faut bien comprendre que lorsqu'on est à plus de 70 000 euros le kilo, ou autour des 70 000 euros le kilo, on a doublé le cours de l'or en 6 ans et on a multiplié le cours de l'or par 6 sur les 20 dernières années. Donc c'est très important.
Fois 6 en 20 ans. On parle de la performance de l'or. Si on benchmark, si on compare la performance de l'or au mois d'avril sur les marchés, qu'est-ce que ça donne avec le CAC 40 comparé?
Alors, sur le mois d'avril, on va avoir une augmentation du cours de l'or qui va se maintenir à autour des 14%, là où sur le marché actions, on va être hors versement dividende autour des 6%.
Bon, voilà, on le sent, on le voit, l'or. On pourrait articuler une réflexion sur la décorrélation, sur plein de mots qui sembleraient importants. Mais je voudrais qu'on parle un petit peu moyen terme. Il y a les élections, l'élection américaine qui se profile, avec une couche supplémentaire d'incertitude, d'inquiétude, en tout cas du flou devant nous.
Oui.
Est-ce que vous pouvez, Laurent, nous expliquer ce que pourrait faire le cours de l'or dans les prochains mois ? On n'a pas de boule de cristal, mais voilà, les éléments, les faits qu'on a et qu'est-ce que ça pourrait donner.
Alors, c'est vrai que la politique américaine joue assez fortement sur l'évolution du cours de l'or. Elle peut jouer à l'occasion des élections qui approchent. Républicains comme démocrates ont une politique budgétaire relativement proche et c'est, je dirais, ce laxisme budgétaire qui peut venir en soutien du cours de l'or. On ne voit pas vraiment un camp ou l'autre adresser cette problématique qui vient apporter son lot d'inquiétudes sur la soutenabilité de la dette et sur le risque que représente la dette américaine. Donc ça, c'est un premier élément qui viendra manifestement en soutien du cours de l'or. On a aussi, d'un point de vue géopolitique, démocrates comme républicains ont une politique étrangère assez similaire, notamment vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de la Russie, dans leur soutien également à Israël. Et tout ça, c'est une position assez dure face à un axe anti-dollar qui essaye d'émerger, construit par des pays comme la Chine, la Russie, mais aussi les pays émergents. Et donc cette situation est de nature à générer de l'instabilité persistante et permanente, donc favorable au cours de l'or.
Voilà, donc un cours qui a priori devrait continuer à être soutenu. Une des explications que vous avez pris le soin depuis les quelques mois où nous nous fréquentons sur ce plateau de toujours rappeler, c'est le poids des banques centrales. L'action des banques centrales, c'est le plus gros moteur, on va dire, de l'or. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu ça et nous dire quelles banques centrales ont été actives au cours peut-être de mars-avril ?
Faut savoir que les banques centrales, c'est un tiers de la détention d'or dans le monde. Les banques centrales qui sont les plus actives sont les banques des pays émergents, notamment. On voit évidemment la Chine et la Russie qui sont de grands acheteurs d'or, en particulier la Chine qui a augmenté pour le 17e mois consécutif ses réserves avec 5 tonnes d'or au mois d'avril. La Russie est repassée à l'achat avec 3 tonnes d'or également. Mais de nombreux autres pays se mettent également à acheter. On a Singapour, la Pologne et d'autres pays qui viennent accumuler.
Singapour, la Pologne, la Russie. Est-ce qu'on sait ce que fait la Banque Centrale Russe de cet or et qu'est-ce qui peut justifier ou expliquer ce regain d'intérêt ou...
Alors pour la Russie, ça fait 20 ans que, depuis l'accession de Poutine au pouvoir, elle cherche à dédollariser ses réserves et à moins s'exposer au système dollar, et c'est la raison pour laquelle, une des principales raisons qui fait qu'elle accumule de l'or depuis 20 ans. De la même manière, la Chine cherche à asseoir une stature internationale à sa monnaie. L'or est facteur de stabilité. Elle se dédollarise également. Elle a diminué ses réserves de dette américaine de près de 25% depuis 2021. Donc ce sont des mouvements de fonds qui sont ancrés depuis un certain temps et qui vont se poursuivre.
Voilà, diversification des réserves de change de banque centrale de pays émergents et puis tendance de dédollarisation qui, elle aussi, voilà, devrait continuer devrait se poursuivre. Est-ce que on peut toucher un tout petit mot de Bitcoin parce qu'on parle souvent et on en parlait en tout cas la semaine dernière la dernière fois qu'on s'est vu du Bitcoin versus l'or, quel était le rôle de valeur refuge? Est-ce que en ce moment l'or joue pleinement son rôle de valeur refuge? Et dans l'histoire, est-ce que en ce moment en particulier l'or est une valeur refuge?
Oui, complètement. On le voit depuis 20 ans finalement, depuis que l'on observe les effets de la première politique monétaire expansionniste d'Alan Greenspan suite à l'explosion de la bulle Internet. À partir de 2005, l'or a commencé à augmenter et c'est finalement pas l'or qui augmente, ce sont les monnaies qui se déprécient. Et ça, on le voit depuis un certain temps. Ça a été initié par Alan Greenspan, ça a été démultiplié par Bernanke et Jérôme Powell. Donc l'or reste une réserve de valeur, c'est une valeur en dernier ressort, les banques centrales ne s'y sont pas trompées, elles en détiennent pour ces raisons également, et c'est quelque chose qui se transmet. Alors quand on fait le parallèle avec le Bitcoin, c'est vrai que on a tendance à les comparer. Le Bitcoin, c'est une valeur qui est une valeur alternative un petit peu au système monétaire. Est-ce que c'est une valeur refuge? Oui et non. On a vu le Bitcoin chuter pendant le crash boursier du Nasdaq à l'occasion du Covid, là où l'or, lui, a plutôt bien résisté. Donc il y a une corrélation qui n'est pas tout à fait pareille entre le Bitcoin les marchés financiers et l'or et les marchés financiers.
Voilà, le Bitcoin, valeur alternative plutôt que valeur refuge. Merci beaucoup Laurent Schwartz de l'équipe du comptoir national de l'or, président du comptoir national de l'or. Les actions qui présentent une corrélation plus faible avec l'or que les bons du Trésor américain par exemple. Hein. Mais dans le contexte où les actions pourraient être un petit peu mises à mal, hein, on parlait en début d'émission peut-être d'une correction des marchés ou d'un ralentissement, eh bien ça peut être intéressant de suivre, d'autant plus près ce que fait l'or, notamment en diversifier votre
merci
portefeuille. Laurent. Merci beaucoup Laurent. Restez avec nous pour la fin de cette émission. Amaury de Tonquédec nous a rejoint, Sandra Gandoin également, car c'est la fin de Tout pour Investir. Merci à tous et toutes pour cette émission. Merci à l'équipe en régie. Vous avez attrapé l'émission en cours de route, pas de difficulté. Vous avez la possibilité de regarder en replay, en podcast et d'écouter en podcast l'émission qui sera disponible d'ici quelques minutes sur notre site et notre application. Demain, nous serons au rendez-vous dès 10h. Nous ferons le point sur les matières premières. On parlera du cuivre, entre autres. 10 000 $, c'est le prix d'une tonne de cuivre selon les contrats à terme traités actuellement sur le marché. C'est un niveau inédit depuis 2 ans. On parlera du cuivre, mais pas que, parce que ça risque de continuer à chauffer. On parlera aussi de l'âge idéal auquel il faut commencer à épargner pour votre retraite. Vous savez, on parle d'éducation financière dans cette émission et on sait que préparer la retraite, c'est important. On parlera de capitalisation, sans aucun doute. Avant cela, il y a Amaury qui va prendre les manettes de BFM Crypto, le club. Nous parlions du Bitcoin avec Laurent Schwartz. Valeur alternative plutôt que valeur refuge. De quoi allez-vous parler tout à l'heure dans BFM Crypto, le club, dès 15h?
Bah ça tombe bien parce qu'on a Nathalie Janson qui sera là et qui a fait une étude comme quoi le Bitcoin dans un portefeuille pourrait couvrir potentiellement, être une couverture face à certains risques géopolitiques. Donc on en parlera à 15h. Puis aujourd'hui, c'est un anniversaire, Lorraine. C'est 1 milliard de transactions sur le Bitcoin depuis sa création, le 3 janvier 2009. Donc voilà, c'est un cap symbolique qui est passé.
1 milliard de transactions Bitcoin qui cote autour de 65 000 $ à l'heure où nous nous parlons. Sandra Gandoin nous a également rejoint. Bonjour chère Sandra.
Bonjour Lorraine.
Vous allez prendre les manettes avec vous d'ici environ 5 minutes.
Oui.
On est en direct à la radio, à la télé et sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Vous avez une petite communauté. Hein.
Ah oui, évidemment, puisqu'on branchez, est en live.
Vous
oui.
posez vos questions. Des questions, l'adresse c'est avecvous@bfmbusiness.fr. Quel est le programme
de l'émission? On va se poser ces questions. Évoluer sans devenir manager, est-ce que c'est possible? On va parler d'expérience client, d'assurance, de comment décrocher un premier CDI. Est-ce que vous craignez aussi une grève pendant les Jeux Olympiques? Toutes les questions également que vous allez nous poser pendant cette émission avec vous à bfmbusiness.fr. Vous êtes les bienvenus. On traite de toutes les questions sur la vie en entreprise avec nos 4 experts.
Voilà, au programme de notre antenne dans quelques minutes, Jean-Marc Daniel, l'homme anti-crypto, se prépare également à nous rejoindre en plateau. Bien sûr, on parle du Bitcoin et des crypto-monnaies pour ceux et celles qui considèrent ces crypto-actifs comme des actifs comme les autres. Vous avez des questions, des réactions, bien vous nous écrivez, participez à la fabrication de notre antenne dans Tout pour Investir, mais pas que. Avec vous, à suivre. À demain.
Tout pour Investir sur BFM Business.